Les actualités du sel, Daniel Hillion, au micro de David Alonso, responsable communication au service d'entraide de liaison.
Nous nous retrouvons pour notre émission mensuelle des actualités du sel avec Daniel Hillion. Bonjour Daniel.
Bonjour David.
Tu voulais nous parler aujourd'hui des programmes de santé des partenaires du sel. C'est une campagne que nous avons animée il y a quelques mois qui a rencontré un beau succès, autant sur les réseaux sociaux que aussi dans la réponse de nos donateurs. Le sujet aujourd'hui de la santé est un sujet qui pour beaucoup ne se pose pas. Alors pourquoi est-ce qu'on le pose nous ici ?
C'est vrai que pour beaucoup d'entre nous, la santé, c'est beaucoup de questions qu'on ne se pose pas. En tout cas, quand on compare avec la situation des populations des pays dans lesquels le sel a des partenaires. Par exemple, quand nous allons voir notre médecin ou quand nous allons à l'hôpital, nous nous attendons à ce que le cabinet du médecin ou l'hôpital soit propre. Nous présupposons que les conditions d'hygiène dans lesquelles le personnel médical travaille sont des conditions correctes, pas simplement correctes, même très professionnelles. Nous pensons que nous allons pouvoir utiliser les toilettes de l'hôpital sans avoir à craindre une infection, que si on nous prescrit un médicament sur une ordonnance, il suffit de sortir à la pharmacie du coin et qu'elle sera approvisionnée dans tous les médicaments, ou en tout cas qu'ils arriveront dans les 24 heures s'ils sont pas là tout de suite. En fait, on se pose pas tant de questions que cela. Et pour nos partenaires, c'est pas si simple.
Alors, quelles sont les questions que nos partenaires nous posent aujourd'hui et qui, pour eux, sont des points de blocage ?
Dans les différents domaines dont je viens de parler, il y a des questions que nous ne nous posons pas et qui se posent pour eux. Je n'en prends qu'une, la question de l'hygiène. La question de l'hygiène, c'est pas quelque chose de si évident que cela pour les personnes qui vont se faire soigner, le fait d'être accueillies dans des conditions d'hygiène correctes et professionnelles. Et c'est pour cela que, pour le sel, avoir des partenaires qui vont pouvoir offrir un dispensaire avec des latrines, par exemple, ça peut être un énorme progrès pour les patients qui sont accueillis dans ce centre de santé.
Alors c'est vrai qu'on ne se pose pas la question, y a-t-il des toilettes lorsqu'on va à l'hôpital ? En parlant de centres de santé, j'ai vu sur le site du sel que le sel finançait ces centres de santé. En quoi ces centres sont importants ? Et deuxième question, peut-être plus difficile, qu'est-ce que ça change aujourd'hui d'avoir un centre de santé géré par des chrétiens ?
Alors ça, c'est deux questions donc différentes, mais qu'est-ce que ça change d'avoir accès à un centre de santé qui fonctionne dans de bonnes conditions ? Eh bien, nous avons un de nos partenaires qui nous a expliqué que depuis la mise en œuvre d'un projet, la réduction de la mortalité due aux maladies d'origine hydrique était de 30%. Donc quand un projet est mis en œuvre d'une manière correcte avec un partenaire qui connaît son affaire, ça change vraiment quelque chose dans le quotidien des populations. Maintenant, qu'est-ce que ça change pour les personnes qui sont accueillies, d'être accueillies dans un centre chrétien ? Nous avons posé la question à l'un de nos partenaires et qui nous a répondu très franchement que du point de vue technique, ça change rien du tout. Autrement dit, un médecin chrétien, il utilise les mêmes techniques de soins qu'un médecin qui n'est pas chrétien. Donc la différence ne va pas venir du fait que le chrétien serait plus professionnel que le non-chrétien. Par contre, ce même partenaire nous expliquait que la différence consiste dans la manière de vivre l'évangile au quotidien, dans la manière d'accueillir les patients, dans la manière de réaliser les soins, non pas au sens technique, mais dans la volonté d'utiliser le cadre de l'hôpital comme un lieu de démonstration de l'amour du Christ. C'est aussi la place de la prière. La prière, c'est la chose qui caractérise la foi, et souvent, on n'y pense même plus. Mais ce partenaire nous expliquait que deux fois par semaine, des temps de prière collective sont organisés, qu'il y a un aumônier qui passe auprès des patients pour prier pour eux, et qui prie avant chaque opération. Donc, il y a une atmosphère différente, une orientation différente, un horizon différent quand ce sont des partenaires chrétiens qui agissent.
Tu parles ici de soins, de centres de santé. Je constate aussi que les partenaires du sel interviennent en amont dans la formation, la sensibilisation. Pourquoi ?
Alors, un des exemples de sensibilisation que le sel soutient avec un partenaire au Bénin, c'est une sensibilisation sur le domaine du VIH-SIDA. En fait, notre partenaire a constaté que souvent, loin d'être un lieu de refuge pour les personnes qui vivent avec le VIH, l'église peut être un lieu où on les rejette, un lieu où elles sont discriminés, stigmatisés. Et notre partenaire a voulu changer les choses en sensibilisant à la question du VIH et du SIDA pour changer le regard des chrétiens sur les questions en lien avec le SIDA. L'enseignement reçu nous était résumé de la manière suivante. Le rôle des serviteurs de Dieu dans les églises et dans les communautés est de sensibiliser, de prêcher et de parler du VIH et d'amener les fidèles à accueillir et entourer les personnes vivant avec le VIH par l'amour de Christ. En fait, on se rend compte que le sujet du VIH-SIDA, c'est un sujet qui nécessite toute une préparation et toute une sensibilisation dans l'Église, parce que souvent les chrétiens savent pas comment faire. J'ai le souvenir d'avoir participé à une conférence internationale au Cap, en Afrique du Sud, dans laquelle on traitait de cette question du VIH-SIDA. Et à un moment donné, il y avait une personne qui était séropositive et qui nous donnait son témoignage. Et à un moment donné, il a dit « Je me demande combien de personnes dans la salle se demandent comment j'ai attrapé le VIH. » Et là, on se rend compte tout de suite que, oui, effectivement, la manière dont on regarde les personnes atteintes par le VIH-SIDA peut parfois poser problème dans l'Église, peut demander une rééducation du regard pour apprendre à regarder avec amour, avec compassion, chacune des personnes qui est touchée, quelle que soit son histoire.
Ce que tu nous dis, c'est que changer de regard, ça participe aussi du soin.
Changer de regard, ça participe aussi du soin, effectivement, parce que la maladie, c'est quelque chose qui a aussi un côté social, et le malade a besoin d'être intégré dans une société, dans une église aussi, le fait d'être rejeté ou stigmatisé contribue à sa souffrance.
Tu me parlais précédemment aussi d'une jeune fille qui avait été touchée par une expérience forte et qui finalement avait fait un choix aussi d'engagement. Toujours dans le domaine médical, est-ce que tu peux nous en parler? C'est Bénédicte, je crois?
Oui, Bénédicte, c'est une jeune fille originaire du sud du Tchad et qui étudie la médecine. Elle étudie la médecine en troisième année et le CEL participe au financement de sa bourse d'études. Et ce que nous avons appris, en fait, c'est que cette jeune fille, si elle a cette vocation médicale, c'est parce que lorsqu'elle était au collège, un de ses camarades de classe est décédé par manque de personnel soignant. Et nous savons qu'un certain nombre de personnes dans les pays du Sud, lorsqu'ils s'engagent dans le travail social, dans le travail médical, dans le travail pour les enfants, c'est parce que ils ont eux-mêmes vécu une expérience difficile, soit dans leur propre histoire personnelle où ils ont été eux-mêmes touchés par la pauvreté ou par l'injustice, soit parce qu'ils l'ont vu auprès de quelqu'un de proche d'eux. Le CEL a diffusé une vidéo d'une ancienne enfant parrainée dans laquelle elle expliquait qu'elle avait décidé de devenir avocate parce que l'enfant d'un de ses voisins avait été violé. Ce genre d'histoire change votre regard sur le monde pour toujours, et il y en a certains qui vont devenir cyniques ou qui vont se décourager, et puis il y en a d'autres qui vont se retrousser les manches et qui vont dire « c'est pas normal et je peux changer quelque chose
». Très 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 beau témoignage, merci beaucoup Daniel. On change de thématique. On s'intéresse maintenant plus aux droits de l'enfant. C'est un sujet qui revient régulièrement. Nous avons tous les ans la journée des droits de l'enfant aussi. C'est une thématique dont on parle beaucoup, plus difficile à appliquer. Et on se rend compte sans doute assez difficile à appliquer dans les différents pays du Sud avec leurs différents regards culturels sur l'enfant. Et notre partenaire Compassion Internationale, hein, qui intervient aujourd'hui auprès des enfants parrainés, s'est saisi de cette problématique depuis déjà de nombreuses années. On est même un des contributeurs forts. Et c'est clair que cet aspect, en fin de compte, du regard chrétien sur les droits de l'enfant est quelque chose aussi dont on parle peu. Est-ce que tu peux nous en dire plus?
Oui, alors le grand rassemblement international, troisième congrès de Lausanne qui a eu lieu au Cap en Afrique du Sud en 2010, s'est saisi de la question des enfants et de la place des enfants et de la place que les chrétiens devraient donner aux enfants. Je vous lis juste quelques lignes de l'engagement du Cap qui rappelle que tous les enfants sont menacés. Sur les 2 milliards d'enfants dans notre monde, la moitié est menacée par la pauvreté et des millions sont aussi menacés par la prospérité. Les enfants des pays riches et sûrs ont tout ce qu'il faut pour vivre, mais sans raison de vivre. Et donc, l'engagement du Cap parle de l'importance d'exposer toute maltraitance à l'égard des enfants, de s'y opposer et d'agir afin que cette maltraitance puisse être vraiment combattue. C'est certainement en partie l'influence de Compassion, qui est notre partenaire, la structure de parrainage avec laquelle nous travaillons, qui a fait que ces questions de la place des enfants pour les chrétiens trouvent leur place dans l'engagement du CAP. Alors, Compassion est une structure qui travaille avec les enfants et qui accorde une place extrêmement importante au sujet de la protection des enfants.
Alors, on parle de protection des enfants, mais de quoi parle-t-on précisément ?
Alors, quand on parle de protection des enfants, on parle de protection des enfants contre les abus. Et on sait que les enfants qui vivent dans la pauvreté vivent souvent dans des environnements qui ne sont pas sûrs et se caractérisent par le fait que les droits de l'enfant sont plus souvent violés que dans les autres contextes. Et on parle ici d'abus physiques, on parle d'abus émotionnels, on parle d'abus sexuels, mais on parle aussi de négligence. La négligence est considérée comme un type d'abus. Les partenaires du CEL pour le parrainage, les centres d'accueil de Compassion, sont particulièrement sensibilisés à cette question des abus dont les enfants peuvent être victimes. Et ça veut dire, par exemple, que l'idée, c'est que les enfants parrainés puissent avoir une idée de ce que c'est que les droits de l'enfant, pour qu'ils sachent quels sont leurs droits en tant qu'enfants et qu'ils puissent réagir en situation d'abus. Mais c'est aussi, bien sûr, que les enfants parrainés, Compassion utilise souvent ce slogan, mais c'est un slogan qui dit quelque chose, que tous les enfants parrainés doivent être connus, aimés et protégés. Et ça veut dire que chaque enfant parrainé est connu par les responsables du centre d'accueil, par son nom, un à un, et qu'ils sont suivis. Ça veut dire que les responsables des centres d'accueil sont formés pour pouvoir repérer si un enfant est victime d'abus. Ça peut vouloir dire des choses très simples, comme être capable de repérer une trace de coup sur le corps d'un enfant, ou ça veut dire être capable de repérer quand un enfant qui est un enfant ouvert, joyeux, et tout à coup change de caractère ou de tempérament, se demande mais qu'est-ce qui s'est passé. Ça veut dire un certain nombre de choses comme cela, mais ça veut dire aussi prendre des mesures très serré et très parfois ressenti même comme trop serré par certains, pour les parrains et marraines qui se rendent sur le terrain pour rendre visite à leurs filleuls. Et on tient à ce que voilà, ces parrains et marraines respectent un certain nombre de règles. Peut-être que des fois, ça fait un petit peu râler, mais en fait, c'est pour le bien des enfants et c'est ça qui nous importe en premier.
Merci beaucoup pour cette explication. Notre émission va bientôt toucher à sa fin. Est-ce que tu peux nous faire un petit retour sur la course des héros qui vient juste d'avoir lieu ?
La course des héros, c'est un événement annuel très important pour le CEL parce que c'est le moyen pour des personnes de se mobiliser et de mobiliser leur entourage. Et cette année, on a eu une soixantaine de coureurs qui, dans une ambiance festive, déguisés en schtroumpf, se sont mis à courir à Paris et à Lyon, à courir ou à marcher, et ont permis de collecter plus de 21 000 euros pour des projets en lien avec le thème de la sécurité alimentaire. Ça s'est fait dans une ambiance festive et joyeuse, et très encourageante et très positive. Et ça montre que on peut, en s'amusant, mobiliser les autres, porter une cause et faire le bien et bien le faire, comme on dit au CEL.
Merci beaucoup, Daniel. Est-ce que tu peux indiquer à nos auditeurs s'ils souhaitent avoir plus d'informations sur le CEL ou s'ils souhaitent soutenir nos actions, ou est-ce qu'ils peuvent se rendre sur Internet ?
Alors, deux adresses, celfrance.org, ça c'est l'adresse du site du CEL, et puis blog.celfrance.org, avec plutôt des articles de réflexion, des témoignages, différents types de contenus. blog.celfrance.org, avec ces deux sites, vous avez tout ce qu'il vous faut sur le CEL.
Merci beaucoup, Daniel.